La midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquet.
Et on est de retour dans la deuxième partie de cette midinale du 17 janvier. Entre-temps, il y a Seb qui est arrivé.
Salut.
Ça va bien ?
Ça va bien.
Ça va bien. Alors, vous avez remarqué que les parties, tout ça, partie 1, partie 2, partie 3, on s'en était un petit peu affranchi. Très bien, donc je vais continuer. Je m'affranchis totalement des parties et cette deuxième partie sera uniquement consacrée à la sortie d'un livre d'un auteur que j'aime beaucoup. Donc c'est Éric Vuillard qui a sorti un livre qui s'appelle Une sortie honorable. Et en gros, c'est Éric Vuillard qui saigne l'histoire de France et ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Donc le dernier livre, donc, ça s'appelle Une sortie honorable. Il est paru chez Actes Sud tout début janvier, là le 5 janvier. Comme on était en vacances, j'avais que ça à faire. Donc le 6 janvier, j'ai acheté le livre et le 7 janvier, il était lu. Alors, de quoi ça parle ? Son livre parle des politiques coloniales de la France notamment, mais pas uniquement. Et ça se passe sur les trois dernières années de la guerre d'Indochine, donc début des années 50. On va être à la fois en Indochine, avec les responsables d'état-major, mais on va surtout être à l'Assemblée nationale, où 4e République, instabilité, enfin, tout ce qu'on nous a raconté sur la 4e République. Et ce livre-là, c'est d'abord et avant tout, comme d'habitude, l'occasion pour lui de rappeler des vérités essentielles. Une de ces vérités essentielles, c'est que les hommes d'État n'existent pas, mais les grands patrons existent. Que quand on nous bassine avec l'honneur de la France n'existe pas, n'existe que les calculs. La chair à canon est toujours la même, que ce soit le peuple en révolution dans son livre 14 juillet, que ce soit les soldats sur le champ de bataille en Europe pour l'ordre du jour, ou que ce soit les acteurs empêtrés en Indochine pour donc son dernier livre, Une sortie honorable. La chair à canon est toujours la même et c'est le peuple. Qu'il soit originaire de France ou qu'il soit originaire de ses colonies, la chair à canon est toujours, toujours la même. Et les gens meurent toujours pour les mêmes raisons, protéger les intérêts de l'Empire. L'écriture de Vuillard dans ce livre-là, comme d'habitude, souvent on lui reproche de manquer d'empathie, de manquer de... Comment dire ? Ces personnages n'auraient pas l'émotion nécessaire pour qu'on puisse s'identifier à eux. Alors moi, je suis absolument pas d'accord avec ça. Et il y a plein de personnages dans ce livre-là où on peut être en empathie. Mais de toute façon, ce n'est pas son propos. Ce livre-là, comme beaucoup d'autres, c'est, on le dirait, écrit avec une lame de rasoir. Son écriture est méchante. Il y a plein de moments où les gens sont ridiculisés. Mais ce qu'il ridiculise d'abord, c'est évidemment, c'est les gens, mais c'est surtout les institutions. Et les deux institutions qui en prennent plein leur gueule et à raison dans ce livre-là, c'est l'armée et la République. Voilà, et c'est pour moi un grand, grand livre, encore une fois, de Vuillard. C'est toujours des livres très courts, mais c'est toujours hyper percutant. Il y a aussi un autre truc que je voudrais dire sur Éric Vuillard, c'est que ils sont peu nombreux, les écrivains français, à être engagés. Et surtout, ils sont peu nombreux à s'être aussi fidèles. Vuillard, c'est un d'eux et un des rares. Peut-être à côté, je mettrais Laurent Mauvignier, mais c'est une autre question et j'ai déjà parlé de Laurent Mauvignier. Et du coup, je me suis dit que je pourrais expliquer le livre plein de fois, mais que, en fait, le plus intéressant chez Vuillard, c'est son écriture. Donc, je vais prendre un petit quart d'heure pour vous lire deux chapitres de ce livre. Ça se passe en tout début du livre, donc je vous gâche rien. Moi, ça me fait rire, donc j'espère que vous aussi. C'est parti, le premier chapitre s'appelle « Dupont des Loges ». Au nord du Vietnam, dans la région du Tonkin, se trouvent des paysages de collines extraordinaires, ce que les voyagistes appellent des paysages de rêve. Ces collines escarpées, ces lacs limpides, ces prodigieuses chutes d'eau, semblent tout droit sortis de la peinture chinoise. On les dirait peints avec un pinceau usé, afin que la ligne, réduite au minimum, n'indique qu'une frontière de brume. Mais en septembre 1950, le poste militaire d'où les Français admiraient depuis un quart de siècle ces sublimes paysages ne recevait plus son approvisionnement que par voie aérienne et se trouvait donc dangereusement isolé. On parvenait mal à mettre la main sur le ravitaillement parachuté et on commençait à craindre la faim. La situation devenait critique. Les plantations avaient été désertées par de larges contingents de main-d'œuvre qui avaient rallié la rébellion. Il fallait à présent faire face à une véritable armée. Aussi, après bien des hésitations, l'état-major français se résigna à évacuer la position. Trop tard. Le jour même où l'ordre d'évacuer fut reçu, le Viet Minh lançait une attaque formidable. Aussitôt, on parachuta des légionnaires en renfort. Mais l'assaut fut si rapide, si brutal, qu'ils n'eurent pas même le temps d'intervenir, et le poste tomba. Au gré de péripéties sanglantes, d'ordres et de contre-ordres mal avisés, le régiment qui avait évacué Cao Bang progressait difficilement dans la jungle. Il parvint finalement à rejoindre une seconde colonne. Mais à la nuit tombée, face à une situation de plus en plus alarmante, harcelée de toutes parts, les survivants se mirent en route, pour un repli désespéré. L'ennemi ne les lâchait pas. Et après de nombreux et farouches accrochages, les deux colonnes furent anéanties. Une dizaine de jours plus tard, le jeudi 19 octobre 1950, à l'Assemblée nationale, Édouard Herriot, qui présidait, adressa la formule rituelle d'hommage à nos forces armées, un mot à nos héroïques soldats. Puis il évoqua leur lutte en Indochine avec beaucoup de dignité. Il crut même bon d'ajouter que leur mission était d'assurer l'indépendance d'une nation associée à notre pays dans le cadre de l'Union française. Il avait alors jeté un regard circulaire au public. Les loges étaient bien garnies. Une fois qu'il eut congrûment adressé aux familles l'expression de notre profonde émotion, il se dépêcha de tourner la page et de donner la parole au premier interpellateur, Monsieur Juge. Au nom du groupe communiste, le député demande quelle suite le gouvernement entend donner aux propositions du président Ho Chi Minh en vue d'échanger des prisonniers. Son discours dure quelques minutes, les députés commencent à bâiller, il fait si chaud en ce mois d'octobre. On tire un peu sur son nœud de cravate, on ôte un cran de sa ceinture. Enfin, un quart d'heure plus tard, un autre député, Frédéric Dupont, prend la parole et aussitôt l'hémicycle s'anime. C'est que Frédéric Dupont, lui, n'est pas un parlementaire comme les autres, mais un député proverbial, aux opinions retentissantes, une figure du Palais Bourbon. Pour lui rendre justice, il faut dire qu'une partie non négligeable de sa réputation venait de l'attention émue qu'il portait aux gardiens d'immeubles. On prétend qu'il déposa des dizaines et des dizaines de propositions visant à l'amélioration de leurs tristes conditions d'existence, raison pour laquelle on le surnomma Dupont des Loges. On note avec émotion tant de fidélité pour une corporation injustement méprisée, pour ces témoins passifs et besogneux de nos vies, triant notre courrier, refoulant les importuns et sortant nos poubelles. Mais afin de mieux comprendre l'intérêt que notre député leur porta, il convient de remonter jusqu'aux critères qui avaient prévalu à leur recrutement. Pour cela, il faut se pencher un instant sur la vie de Jean Chiappe, célèbre préfet de Paris, l'un des pères fondateurs de la police moderne. Lecteur de Gringoire et de l'Action française, Il admirait par-dessus tout Charles Maurras, vous savez, le polémiste. Le soir, dos calé contre la bouillotte, il feuilletait, anxieux, constipé, les brochures ou les mazarinades du maître, espérant que surgirait demain le régime énergique qui rédimerait la France. Lorsqu'il était de bonne humeur, après un heureux coup de filet, la répression réussie d'une grève, il soupirait sous la lampe de chevet, à la trame d'imaginaires amours qu'évoquait Maurras dans ses rêveries provençales. Mais la plus vive passion de Jean Chiappe était son métier. Zélé, il incorpora au corps des gardiens de la paix le plus de nervis possible, truand sans scrupules, factieux, afin d'avoir une police aguerrie, complaisante et bornée. Pour améliorer le quotidien de ses troupes de choc, il facilita l'emploi de leur épouse comme concierge. Cela mettrait du beurre dans les épinards. Et puis, on n'est jamais assez informé, jamais assez sûr des locataires débraillés, des petits propriétaires instables. Il est donc judicieux de placer dans les loges de Paris des personnes de confiance. On comprend mieux maintenant pourquoi Frédéric Dupont, qui donnait dans les opinions de Chiappe, soutiendra inlassablement les concierges. Il entretenait ainsi un véritable corps d'agents électoraux, missionnaires, rabatteurs, propagandistes de comptoir, mais surtout, il secourait une clientèle diligente, efficace, les épouses des gardiens de la paix, une armada d'indicateurs. Frédéric Dupont n'était donc pas seulement le député extravagant qu'on veut nous donner à voir, l'énergumène excessif, fantaisiste, que nous décrivent ses anciens confrères. Et tandis qu'Édouard Frédéric Dupont descend avec application la travée ce 19 octobre 1950, serrant quelquement et glissant un bon mot au passage, observons-le un peu, et à côté du député qui s'apprête à parler, déroulons un instant sa longue carrière. Saisissons une minute le volume qui traîne sur la table de nuit et feuilletons en vitesse le petit roman de son existence. Édouard Frédéric Dupont est né dans le 7e arrondissement de Paris. Il en est un véritable autochtone. Il en parle la langue, en connaît les coutumes et porte sa livrée. Il a une drôle de binette, Dupont. Faut dire qu'ayant participé aux émeutes fascistes de février 34, il a été blessé à la tête. De là lui vient peut-être cet air lunaire, déplaisant. Mais les gens du 7e arrondissement récompenseront cette blessure de guerre. Il y sera élu, puis réélu, sans cesse, avec des scores vertigineux des 95%, de véritables plébiscites. Chantre du général Franco, il votera leur venue les pleins pouvoirs à Pétain. Devenu vice-président du Conseil de Paris à partir de 1941, sentant progressivement le vent tourner, il refusera de voter le projet de budget pour 1944. Enfin, il démissionne du Conseil un quart d'heure avant le déluge. Quelques mois plus tard, la France est libérée. Ses actes de bravoure lui vaudront in extremis la médaille de la Résistance et la Légion d'honneur. Mais sautons un peu les haies, allons, avançons. Récapitulons sa prodigieuse carrière. Élu 62 ans à Paris, un record. 13 mandats de député, plus de 40 ans de vie parlementaire. Il a connu 3 républiques et a été membre de 10 formations politiques, pour finalement se présenter sur la liste du Front National, aux côtés d'Olivier d'Ormesson, le cousin de Jean. Mais avant tout, Dupont des Pipelettes, comme on l'interpellait affectueusement dans les couloirs, fut un grand porteur de réformes. Parmi ses plus notables actions, notons qu'il participa à la création du périphérique, à la construction d'un parc de stationnement et à la restauration des jardins de l'hôtel des Invalides. Autant dire des prodiges. Mais ce 19 octobre 1950, Frédéric Dupont est à l'un des sommets de sa carrière. La guerre d'Indochine le place au premier plan. Il est le félibrige de l'Empire et l'avocat de notre armée. Un pet de lumière fuit de la verrière. Les rédacteurs se succèdent discrètement autour de la tribune. Dupont remonte son bénard. Décidément, le sur-mesure n'est plus ce qu'il était. Il referme le deuxième bouton de sa veste, s'assure qu'elle n'a pas été meurtrie par la promiscuité et se racle la gorge. Frédéric Dupont se cramponne au pupitre. Il y a du monde dans l'hémicycle, les loges se remplissent, des camarades l'encouragent. D'une main songeuse, il s'éponge le crâne, battant le rappel de ses derniers tifs, et il se lance follement dans sa grande diatribe. Il évoque tout d'abord, d'un geste bouleversé, le drame de Cao Bang, et déplore l'abandon matériel et moral dans lequel a été laissé notre héroïque corps expéditionnaire. Des rires fusent. Les secrétaires notent à la volée des répliques de forains. Les lumières brillent. Dupont éprouve un vague sentiment de détresse. Sur les bancs du gouvernement, les ministres s'agitent. D'après lui, l'armée manquerait de tout en Indochine. Et pointant un index vengeur en direction du secrétaire d'État aux forces armées, Dupont lui lance, avec un air d'angoisse, rouge de colère, que le fil de fer barbelé a même dû être remplacé par des piquets de bambou. Max Brusset, c'est un comble. Cette réplique de Max Brusset est mémorable. Et comme tout ce qui concerne la mémoire, elle tire son origine d'une lente sédimentation. Afin de parvenir à prononcer convenablement « c'est un comble » dans des circonstances appropriées, il faut que s'accumulent plusieurs générations de notables. Depuis le goître de Max Brusset, cette expression s'enracine dans la gorge de son grand-père, Jean-Baptiste, le sénateur, également président des notaires de Haute-Saône, fonction merveilleuse. Max fut, quant à lui, membre du comité d'honneur et du comité d'orientation de la Revue des Deux Mondes, qui a toujours été généreuse. Il fut également l'un des propriétaires de Radio Méditerranée, puis président directeur général de la SATAS, société produisant des machines à affranchir le courrier, modèle breveté, doté d'un exclusif et révolutionnaire procédé appelé Sanglier. Mais le voici ensuite conseiller de la Compagnie Générale d'Électricité, puis de L'Oréal et de Henkel France, qui s'occupe d'adhésifs et de détergents. Il est souple, Max. Avec sa bonne binette d'homme de radio, il s'adapte. Il passe des ondes au timbre poste, des timbres à la distribution d'électricité et de l'électricité qui illumine la vie aux cosmétiques, qui lui sont parfaitement accessoires, et des cosmétiques qui maquillent aux détergents, qui rongent. Sa femme, Marie, est une Valérie Radeau, l'orgueil de la bourgeoisie. Au XVIe siècle, les Radeaux sont marchands. Ils se transmettent un petit coffre et un écritoire de père en fils. Un siècle après, on est maître chirurgien. Un siècle encore et on devient notaire royal. C'est parti. Au XIXe, Lazare André Radeau s'installe à Avallon. Il est avocat. Son fils, Vincent Félix Valéry Radeau, monte à Paris. Sa carrière fut prodigieuse. D'abord à la Bibliothèque royale du Louvre, il se hisse jusqu'au cabinet du ministre de l'Agriculture et du Commerce sous le Second Empire. Il sait tout faire, Vincent Félix, tout. Il rédige des critiques, publie des livres et enfin rafle la Légion d'honneur. Mais surtout, Vincent Félix se marie. Et là encore, il est avisé, ambitieux. Il épouse la petite fille du docteur Jean-Joseph Sou. Et à travers elle, il épouse à la fois l'Académie de médecine, la littérature et la grande histoire. Il gardera son arbre généalogique de Louis Pasteur et d'Eugène Sou, d'un intendant du duc d'Orléans et d'un académicien. Et ça continue avec René-Valéry Radeau, homme de lettres, collaborateur, lui aussi, de la Revue des Deux Mondes. Et puis avec Louis Pasteur-Valéry Radeau, qui se tint enfin à cheval sur deux académies, l'Académie française et celle de médecine. Ah, quelle parentèle! Quelle tribu ils font, les Valéry Radeau! Et en réalité, c'est bien la substantifique moelle de ce lignage, florilège de la bourgeoisie française, qui prend véritablement la parole par la bouche de Max Brusset, le 19 octobre 1950, à l'Assemblée nationale, vers 10h du matin. Et tandis que le petit Max, le gamin de Neuchâteau, se retire tout au fond de son costume, derrière sa cravate marron et son col trop blanc, tandis qu'il rumine dans l'arrière-boutique, autrement dit son âme, je ne sais quelle maladie fait farouchement livide, ergotant des mots secrets, fielleux, tristes et fielleux, qu'il prononce en lui, muet, sans les entendre, sans peut-être même y penser. Tandis que le petit Max, timide, le regard flou, se racrapote en lui-même, le député de Charente-Maritime lève fougueusement le bras et ouvre grand le bec. Alors toute sa généalogie de notables, les grands Brusset, rejettent au loin les petits Brusset du passé et sa belle famille, les bonzes de la Revue des Deux Mondes, les Manitou de la chirurgie et du notariat, se lève à son tour et symbole de la représentation nationale, phénomène où la volonté de mille cristallise en un tous les Radeaux, les Brusset, et les Valéry braillent comme un seul homme, c'est un comble. Mais il ne se contentera pas de cette admirable interjection, Max Brusset. Il ouvrira encore sa tapette une heure plus tard pour dire « Hélas, nous sommes servis !» Et un peu après encore, il aura cette réplique piquante « C'est la voix de son maître !» évoquant la voix du peuple algérien. Puis, une bonne demi-heure passe, pendant laquelle il se gratte les roustons sous le pupitre et après un petit quart d'heure de sieste, tiré brusquement du sommeil par l'ardeur des débats, il lance à la volée sa plus célèbre répartie. C'est la distribution des prix ? Mais en fin de journée, il aura une ultime réplique. Dicton moral, où tout est dit. Cramoisi, respirant mal. Il se hisse sur ses quilles, bombe la poitrine et prononce d'une voix exsangue, cadavérique. « Monsieur le Président, vous avez plus d'égards pour Monsieur Tillon que pour Monsieur Capitan. » Ce qui, en bon français, veut dire « Vous avez plus d'égards pour un communiste que pour un membre du RPF. » Ce qui, en vieux français, veut dire « Vous avez plus d'égards pour un ancien ajusteur que pour un professeur à la faculté de droit de Paris. » Ce qui, dans la langue de Molière, veut dire « Vous avez plus d'égards pour un péquenot que pour l'un des nôtres. » C'était un petit passage à l'Assemblée. Et maintenant, je vais vous lire un deuxième chapitre. Rien que le titre, tout est dit. Comment nos glorieuses batailles se transforment en société anonyme. Cela peut sembler curieux, mais il n'y avait, et il n'y a même jamais eu, aucun colon français établi à Kaobang. Nul quartier, nulle vie sociale européenne, pas un commerçant entreprenant, pas un hôtelier aventureux, pas un seul premier de cordée, personne. Et il faut ajouter qu'il n'y avait, et qu'il n'y a jamais eu non plus, aucun Européen à Donkey, aucun à Langson, aucun à Maoke, aucun à Lungfai. La société des mines d'étain de Kaobang avait vu le jour en 1905, et pour fonctionner, elle n'avait besoin que de quelques ingénieurs, de contremaîtres européens, c'est tout. Et pour se protéger, il lui fallait un poste militaire. En 1911, elle semble avoir été absorbée par les étains et Wolfram du Tonkin. Cette société anonyme, au capital de 3 800 000 francs, possède, comme toute personne morale, ce qu'on appelle un siège, un domicile juridique. Bien loin du Haut Tonkin, bien loin de Kaobang, mais pas très loin du Palais Bourbon, boulevard Haussmann, dans le 8e arrondissement de Paris, à deux pas de la Banque d'Indochine, qui détenait de sérieux intérêts dans l'affaire. 10 ans plus tard, son capital est de 7 millions. 12 ans plus tard, il est de 24 millions. Et à la veille de la guerre mondiale, il est de 36 millions. Chiffre qui donne le vertige. Ce n'est donc pas un simple poste avancé perdu dans la jungle. Ce n'est donc pas pour un simple poste avancé perdu dans la jungle que l'armée se bat. Ni pour quelques colons français égarés. Et l'on devrait, par souci de précision, rebaptisée la bataille de Kaobang, à propos de laquelle s'écharpe le Parlement, bataille pour la société anonyme des mines d'étain de Kaobang. Cela lui conférerait sa véritable importance. Mais il n'y a pas que la bataille de Kaobang qui devrait porter un nom de mine. La bataille de Maoke, qui aura lieu quelques mois plus tard, en mars 51, pourrait être rebaptisée elle aussi. On pourrait tout aussi bien l'appeler bataille pour la société française des charbonnages du Tonkin. Et au lieu du corps à corps sanglant que relatent nos livres, on devrait aussi raconter, dans un registre moins romanesque, mais au fond plus tragique, comment les 400 hommes de troupes renforcés par le 6e bataillon de parachutistes coloniaux, 3 destroyers, 2 péniches de débarquement et l'utilisation finale de bombardiers et de chasseurs répondaient à l'appel déchirant que lui avait lancé depuis Paris, à une échelle invisible de nous et par un jeu de réverbération délicat, les 20 000 hectares sur lesquels s'étendait le domaine houillé de Maoke, que 78 760 actions se partageaient alors. Et l'on pourrait, entrelaçant Homère et l'économie de marché, chanter les 393 millions de capital que défendirent vaillamment les bombardiers B-26 et les chasseurs L-4, puisque c'est bien sans erreur possible, en direction de la mine de charbon, que l'attaque du Viet Minh avait été lancée. Quant à la bataille de Ninh Binh, 3 mois plus tard, contentons-nous de célébrer sans emphase l'intrépide bataille pour la société anonyme des charbonnages de Ninh Binh. Et celle d'Hao Binh, en décembre 51, n'est-elle pas, elle aussi, un capital et un chiffre d'affaires? Et ne pourrait-on pas, à son tour, la rebaptiser bataille pour la société anonyme des gisements aurifères d'Hao Binh? On comprendrait mieux la fureur des combats. Et la fameuse bataille de Dong Trieux ne fut-elle pas livrée en même temps par le corps expéditionnaire français et par la chambre de commerce de la Seine? Et les 51 morts du 6e bataillon de parachutistes coloniaux furent-ils bien sacrifiés pour la France ou pour M. Pierre Charles Bastide, membre du conseil d'administration des charbonnages, directeur général des étains et Wolfram du Tonkin, directeur général des étains du Piwak, ingénieur conseil pour la Banque d'Indochine, administrateur des établissements Eiffel et des mines d'or d'outre-mer, N'est-ce pas plutôt pour lui qu'on se battait? Et les véritables généraux de cette bataille, s'appellent-ils vraiment Jean Delattre de Tassigny et Raoul Salin? Ne s'appellent-ils pas plutôt Varenne, Étienne, Bastide et Moreau des Farges, membres du conseil d'administration des charbonnages? Et ne devrait-on pas alors l'appeler « Bataille pour la société anonyme des charbonnages de Donctrieux », dont le compte numéro 38056 se trouve, comme sans doute tous les autres, à la Banque d'Indochine, 96 boulevard Haussmann à Paris. Et voilà comment nos héroïques batailles se transforment, les unes après les autres, en société anonyme.
Ben, on voit que toutes les guerres se ressemblent de toute façon.
Ouais, ça s'appelle Une sortie honorable. Donc c'est écrit par Éric Vuillard, publié à Actes Sud. Je vous engage très fortement à lire à peu près tout ce que Vuillard a écrit. C'est vraiment éclairant, quoi. Il a écrit un très beau livre sur la Révolution qui s'appelle 14 juillet, où c'est une histoire populaire de la Révolution, en fait, avec tous les gens qui se sont soulevés et retrouvés à la Bastille ce jour-là. Il a écrit, et il a eu le Goncourt pour ça, un très beau livre sur la Seconde Guerre mondiale qui s'appelle « L'ordre du jour ». Un autre livre assez magistral sur les conquistadors, qui s'appelle « Conquistadors ». C'est un livre halluciné qui se passe dans les montagnes du Pérou. Enfin, en gros, tout ce que Vuillard a écrit, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est absolument génial. Et maintenant, c'est à toi, Elsa.
Oui. Je vous propose donc une lecture d'une chanson presque pas connue de Anne Sylvestre. Yeah. Je cherche un mur pour pleurer. Ah, je cherche un mur pour pleurer. On ne pleure plus, paraît-il. On avale tout, c'est facile. On ne dit plus rien lorsqu'on vous crache dessus. On reste serein. La colère, c'est mal vu. On est poli, poli. On tend son cul. Merci, merci. Je cherche un mur pour pleurer. Ah, ah. Je cherche un mur pour pleurer. Ah, ah. On ne s'aime plus, paraît-il. On dit que l'amour est fragile. On est très moderne. On laisse sa liberté. Mais on fait les poches aussitôt le dos tourné. On est copains, copains. On ne se raconte rien. Plus rien. Je cherche un mur pour pleurer. Ah, ah, ah. Je cherche un mur pour pleurer. Ah, ah, ah. On connaît tout par le journal, mais les mots ça ne fait pas mal. On est toujours plus ému par ce qui est loin, mais on oublie la détresse de son voisin. On est bistrot, bistrot. On ne se connaît pas trop. Pas trop. Je cherche un mur pour pleurer. Ah, ah, ah. Je cherche un mur pour pleurer. Ah, ah. On mélange les accidents, les princesses et leurs prétendants. On ne dit plus rien lorsque des enfants ont faim, mais on ouvre sa bourse pour sauver des chiens. On est toutou, toutou. On a bon cœur. C'est tout. C'est tout. Je cherche un mur pour pleurer. Ah, ah. Je cherche un mur pour pleurer. Ah, ah. On ne pleure plus, paraît-il. On rigole, c'est plus facile. On n'écoute plus les poètes, les errants. On leur dit « taisez-vous, vous n'êtes pas marrants ». On est télé, télé. On est si fatigué de penser. Je cherche un mur pour pleurer. Ah, ah, ah. Je cherche un mur pour pleurer. On va à la messe, au cathé, ou bien on bouffe du curé, mais on chante en chœur, il est né le divin enfant. On va tous ensemble au muguet quand il est blanc. On est païen, païen. Dieu reconnaîtra les siens, c'est bien. Je cherche un mur pour pleurer. Je cherche un mur pour pleurer. On est toujours comme on n'est pas. Un jour c'est triste, un jour ça va. On essaye bien, mais on n'a jamais le temps. On croit tenir la fleur, mais on meurt mécontent. On est paumé, paumé. Et si on pouvait s'aimer, s'aimer. Être ensemble pour pleurer. Avoir le temps de pleurer.
C'est là.
C'était...
C'est là qu'on arrête de frissonner, c'est ça. C'était quelle chanson d'Anne Sylvestre? C'est un texte ou une chanson complète qu'elle avait?
C'est une chanson complète et c'est « Je cherche un mur pour pleurer ».
C'est ça.
Voilà, de Anne Sylvestre donc.
Et c'était ce moment-là, Kat, mais tu sais bien. On fait une pause musicale et puis on revient pour la dernière partie, la revue de presse. Je ne sais plus ce qu'on écoute. On écoute Shannon Wright et Raoul Vignal. Bien.
Here comes the morning light, cast on the bed on which I lay down. Restless dreams I made bounce on the walls and windowpanes. As rest can be found, I'll make up scenes of you and I. Rolling in gentle waves, whatever picture comes to mind. Ooh.
decades of time.
And how does this do?